Retour sur la radio en bandoulière qui était en direct le samedi 3 juillet toute la journée à Auger-Saint-Vincent pour l'inauguration du Café Citoyen.
Avec une chronique de Jeannine Assier sur le parc aux dames.
Grain de sel, l'émission de la rédaction. Grain de sel.
RVM, Radio Valois-Mussin, la radio en bandoulière à Auger-Saint-Vincent.
Samedi 3 juillet 2021, Radio Valois-Mussin à Auger-Saint-Vincent. Pendant des années, de 1989 à 2020, je me suis occupée à la mairie de Crépy-en-Valois des archives anciennes, rassemblées à partir de 1933 au nouvel hôtel de ville, dans les greniers, placards, étagères, à même le sol, dans les étages, au rez-de-chaussée et dans les caves. De haut en bas dormaient des trésors. Un jour, je suis tombée, entre guillemets, sur un registre en bon état. Et curieuse, je l'ai feuilleté et adopté pour l'étudier. Recouvert de parchemin, c'est un livre de contes, non pas de fées, mais de moniales, de religieuses, d'abbesses. Sur la page de garde, il est écrit « Registre, cote numéro 38 du district, parc aux dames, 1779-1789, vu par le receveur de la commission de bienfaisance du canton de Crépy le 9 janvier 1806, ne contient pas de renseignements qui puissent intéresser la commission. » Fin de citation. Le parc aux dames. Pour en savoir davantage, j'ai recherché son existence dans les ouvrages d'histoire locale. D'abord dans l'histoire du duché de Valois, depuis le temps des Gaules jusqu'à l'année 1703 de Claude Carlier. Puis dans le Valois royal, 1583, mémoire de Nicolas Bergeron, avocat au Parlement. Dans le Valois royal, 1662, amplifié et enrichi de plusieurs pièces curieuses, extraites des cartulaires et archives des abbayes, églises et greffes du Valois, par Antoine Muldrac, religieux et ancien prieur de Lompon. Dans les aumônes d'Aliénor, dernière comtesse de Vermandois et dame de Valois, par M. Louis Duval-Arnoux de la Bibliothèque Vaticane. Article publié dans la revue Mabillon en 1984. Dans le précis statistique sur le canton de Crépy-en-Valois par Louis Grave en 1843. Enfin, trouver à la Bibliothèque nationale des quittances ecclésiastiques signées par des abbesses du parc aux dames. Le parc aux dames, une abbaye de Monial. Je cite M. Duval-Arnoux, 1205, fondation de l'abbaye des Moniales par Aliénor dans son domaine de Bouville, près de Crépy, et qui prit le nom de Notre-Dame du Parc, plus tard le parc aux dames. La charte de fondation qui précise bien le rôle de la comtesse dans la construction du monastère, attribue aux moniales le terrain sur lequel est édifiée leur maison, contenant des terres cultivables, prés, bois, étangs. Cette même année, 1205, entre le 10 avril et le 31 octobre, avant même que la communauté fût installée, Philippe Auguste approuva la fondation. Qui était donc Aliénor, appelée aussi Éléonore. Fille de Raoul IV, seigneur de Crépy-en-Valois, puis sénéchal de France, ce grand guerrier meurt en 1148. Sa fille aînée, Élisabeth, mariée à Philippe d'Alsace, lui succède et hérite de tous les territoires conquis par son père, qu'elle transmet à son tour en 1176 à sa petite sœur Aliénor, née probablement en 1149. Celle-ci devient comtesse de Vermandois, dame de Valois, prend possession du château de Crépy et abandonne son palais de Bouville. Muldrac précise, en parlant d'Aliénor ou d'Éléonore, elle eut successivement quatre nobles maris sans en avoir ligné. Le premier, mort à 16 ans, prêt à se croiser pour la Terre Sainte. Le deuxième, prince fort estimé, emporté dans la fleur de son âge par la mort implacable au voyage d'outre-mer vers l'an 1170. Le troisième, frère de Philippe d'Alsace, frappé à mort d'un coup de flèche au siège du château de Dringourt l'an 1174. Le quatrième mari, Mathieu de Montmorency, comte de Beaumont-sur-Oise, insigne en prouesse et piété. Fin de citation. Bergeron note que la comtesse s'est montrée autant dévote que libérale, que prudente, que virile, en confirmant les précédentes fondations de ses devanciers, mais encore plus, ayant fait bâtir, par effet, enrichi plusieurs monastères, hôtels-dieu et hôpitaux, comme Lompré, le Parc aux Dames et autres lieux, dans et hors Crépy. Le roi de France, Philippe Auguste, s'efforça de protéger les biens dont il héritera à la mort d'Aliénor. Ceci explique l'existence de la charte aumônière de la comtesse, datée de 1194, confirmée par le roi l'année suivante, en 1195. Cette charte contient une longue liste des libéralités faites de rentes foncières en grains et en argent à des hôpitaux et à des communautés régulières assignées sur les domaines du Valois. Carlier précise, cette charte originale, ornée d'un large sceau pendant à des lats de soie jaune, le champ contient la figure d'une femme debout, ayant un paon sur le poing gauche. Avec cette inscription, soit en français, je ne vous la lis pas en latin, soit en français, « Grand sceau d'Éléonore, comtesse de Saint-Quentin et dame du Valois ». On distingue sur le contre-sceau un aigle déployé et ses mots « Secretum Éléonore ». Point final sur les aumônes. Éléonore est ainsi autorisée à en faire jusqu'à sa mort qui, d'après Muldrac, surviendra vraisemblablement le 21 juin, date retenue par le nécrologe de l'abbaye de Lompont où Aliénor fut inhumée auprès de son frère Raoul. Et ceci est repris par M. Louis Duval-Arnoux. Je reprends. Éléonore est ainsi autorisée à faire des aumônes, mais toutefois dans les limites de 100 livres parisis par an. Faut pas exagérer. Éléonore décède un an avant la victoire de Bouvines, qui marquera le rattachement du Vermandois et du Valois à la couronne de France. Laissons Bouvines et retour à Bouville. Bouville et son parc aux dames. La première abbesse, Élisabeth Ière, qui était de la famille des seigneurs d'Assy en Mulcien, obtint en 1207 de Guérin, célèbre évêque de Senlis, qu'il dédia l'église récemment achevée à Notre-Dame. Pendant le XIVe siècle, l'abbaye fut dévastée. Les Anglais, qui à l'époque n'avaient pas encore inventé le Brexit, y mirent le feu, qui brûla l'église, le clocher, le portail, les lieux réguliers. La contagion, née dans le pays, à la suite de la famine, ayant gagné le couvent, il n'y resta plus qu'une religieuse. Les titres de propriété se trouvèrent perdus et la communauté ruinée. Muldrac recense en 1662 25 abbesses depuis la création du parc aux dames. L'une d'entre elles, Denise de Barthélemy, obtint de Henri III en 1578 des lettres portant confirmation des privilèges de son monastère. Une autre, sœur Suzanne de Morelli, apparaît aux yeux de Muldrac comme, je cite, « restauratrice du spirituel et temporel pendant les 33 ans qu'elle a gouverné cette abbaye et a fini sa vie en odeur de sainteté le propre jour de la dédicace de son église en 1647. » La dernière des 25 abbesses pour Muldrac est une autre Élisabeth, Élisabeth II. Marie-Élisabeth Fouquet est la sœur de Nicolas Fouquet, contrôleur général des finances. Elle profita du crédit de son frère pour embellir l'abbaye. Elle fit élever un nouvel autel sur lequel on avait placé une inscription rappelant la générosité de ce frère influent. Nicolas Fouquet, successivement gouverneur de Melun, intendant du roi et trésorier principal de l'État, a élevé cet autel au Seigneur et signé Élisabeth Fouquet, sa sœur, abbesse de ce monastère en l'an du Seigneur 1658. Inutile de vous dire que ces dédicaces étaient en latin. Cette abbesse qui gouverna pendant 30 ans obtint en août 1652 des lettres patentes portant érection du parc en châtellenie dont le ressort comprit les justices particulières de Saint-Marc, Magnéval et Rouville avec droit de foire et de marché. D'autres lettres patentes données à Paris au mois de mai 1659 y ajoutèrent le don de haute justice sur la terre d'Auger-Saint-Marc. Élisabeth Fouquet a signé en 1657 une quittance. Citation : Nous, humbles abbesses de l'abbaye de Notre-Dame du parc aux dames, près de Crépy-en-Valois, de fondation royale, confessons avoir reçu la quantité de 8 muis de blé sur le moulin de Pondron. Une autre quittance de 1668 atteste : Nous, sœur Élisabeth Fouquet, abbesse de Notre-Dame du parc aux dames, confessons avoir reçu de M. Charles, conseiller du roi et receveur, la somme de 75 livres pour une année que nous avons à prendre par chacun an. On compte une quarantaine d'abbesses pendant les 6 siècles traversés par l'abbaye du parc aux Dames. Les abbesses se succédèrent, plus ou moins aptes à gérer les biens de l'abbaye, mais toutes issues des plus nobles familles. Par exemple, Marie-Thérèse de Clermont d'Amboise, professe de l'ordre de Cîteaux, fut l'avant-dernière des abbesses du parc aux Dames, où elle mourut en 1778. La dernière fut Françoise Suzanne de Saillant, installée en 1779. C'est elle que nous retrouvons en tête du dernier registre des comptes de l'abbaye pour les années 1779-1789. Registre dans lequel les recettes et dépenses sont soigneusement notées. Je me suis plus intéressée aux recettes avec indulgence plénière accordée à ceux qui visiteront l'église du parc aux Dames à certaines fêtes de la Vierge pour alimenter le tronc de l'église. Les dîmes, bien sûr, avec, par exemple, reçu de Monsieur Lallemand, seigneur de B, son année de la rente qu'il doit à notre abbaye sur les dîmes du dit B pour l'année 200 livres. Reçu de Madame la princesse de Monaco, seigneur de B, l'année de rente qu'elle nous doit par acte passé par devant les notaires du Châtelet à Paris, 200 livres. Et les dîmes se suivent jusqu'au 22 novembre 1788. Parmi les recettes, les revenus des pensions qui assuraient le vivre, le couvert, les soins à quelques dames. Le parc aux Dames était-il un EHPAD avant l'heure? Le registre mentionne en première page « Reçu ». Le 6 février 1779, 100 livres de Monsieur le comte de Valentinois pour 3 mois de la pension de Madame Herpin, échue au 14 décembre dernier. À noter que le comte de Valentinois était le beau-frère de la princesse de Monaco, résidente à B comme elle. Mais il ne partit pas en émigration avec elle et fut même élu maire de B pendant quelques mois en 1790. Le 18 mai 1789, reçu de Madame de Dumouriez, abbesse de l'abbaye de Fervaques, pour 6 mois de la pension de Madame Bosquet, 200 livres. Cette pensionnaire était déjà présente en 1779. J'ai cherché où était l'abbaye de Fervaques. C'est un monastère de moniales cisterciennes situé sur le territoire de l'actuelle commune de Fonsomme, dans le département de l'Aisne, près de Saint-Quentin. Pendant les 10 années de ce registre, on dénombre au moins 5 pensionnaires. Quelques recettes pas ordinaires. En 1779, reçu le 23 juillet. Recette extraordinaire de Monsieur le comte de Valentinois de 600 livres. Une somme du même montant a été versée par une personne qui ne veut pas être nommée. Anonyme donc. 1789. C'est la révolution, un tsunami, un Covid qui va durer 10 ans. Au parc aux Dames, Françoise de Saillant, notre dernière abbesse, sort de l'abbaye avec 10 religieuses et 9 converses. Et combien de pensionnaires? Il y en avait au moins une, Madame Bosquet, sa pension étant payée. Je reprends le grave, qui nous dit qu'à la Révolution, les bâtiments claustraux ont été démolis presque entièrement, ainsi que l'église dont il reste une seule chapelle et quelques ruines. Quant aux archives municipales de Crépy-en-Valois, après un recensement et une mise en carton qui furent laborieux, longs et exténuants, merci, un grand merci à toutes les personnes qui ont été impliquées. Toutes ces archives, y compris la bibliothèque historique, reposent dans les sous-sols de la Passerelle, siège de la communauté de communes du pays de Valois. Elles sont consultables, évidemment, sur rendez-vous.
C'était une chronique de Jeanne Nassier sur le parc aux Dames.
Grain de sel, une émission de la rédaction.
C'était la radio en bandoulière qui était à Auger-Saint-Vincent le samedi 3 juillet 2021.
Grain de sel.